Dans la page de la semaine, le même chapitre que vous avez étudié hier soir, c'est le chapitre 30. On va attendre que ma voix. C'est bien? Donc, elle n'arrive jamais à parler quand il n'y a pas de silence. Alors, nous avons hier soir une excellente étude du webinaire sur le début du chapitre. Je pense que certains d'entre vous étaient là, on pourra en tenir compte. Alors, nous allons voir la suite, et ça nous donnera l'occasion de faire le sikoum de tout ce que nous avons appris sur la Teshuva jusqu'à aujourd'hui. Alors, je me propose peut-être de prier pendant une heure, et ensuite une demi-heure, même trois quarts d'heure, si vous aurez la parole, s'il y a un recodage à faire. La dernière année, je m'aperçois à quel point il peut rester un an sur ce sujet. Et on peut faire, je crois, quand même un système assez provisoire. Je reprendrai la question par laquelle on a commencé la semaine dernière, il y a deux semaines, tu sais. Alors, prenez donc le texte à partir du verset, et je le prends probablement, chapitre 30. Et j'aurai à revenir sur un des versets du début du chapitre, mais pas tout de suite. On va d'abord traduire les versets à partir du verset 11, puisque l'étude que vous avez hier soir portait jusqu'au verset 10 y compris. Et c'est l'occasion de dire Ad et Ad Bechlal, puisque vous rappelez, il y avait Ad, Vélo Ad Bechlal, qui se rappelle de ça? Hier soir, qui était là hier soir avant que je fasse des exercices? À propos de quoi la Rabbi Avinar avait parlé de Had, de l'Orad des Flammes?
La première fois que
les Chouras
ont été dans le verset numéro 2.
C'est 2 ou 3?
Le verset 3.
C'est le verset 2, très bien. Et la chaîne, merci. Et c'est basé sur quel chapitre de Rota Kodesh de Rabkouk? Le chapitre 17. Donc. Alors, on va donc commencer la lecture à partir du verset 11, et ça concerne les versets qui institueraient, je mets ça au conditionnel provisoirement, la Shuva comme une mitzvah dans le sens de Chova. C'est-à-dire comme une mitzvah dans le sens de commandement, d'avoir à faire tshuva s'il y a une faute à quelque niveau que ce soit. Et vous rappelez qu'il y a à ce sujet une machloket chez les grands postiers, et en particulier entre le Rambam et le Ramban. Pour ceux qui ont suivi les études depuis le début du séminaire, mais je rappellerai ça autant que c'est nécessaire. Donc, d'abord établir la lecture du texte. Et ensuite, je reprendrai, point par point, l'étude de ce problème. Donc on est à partir du verset 11, mais commencer par la fin. Disons, commencer par le verset 10 quand même, pour la transition. Kitishma, les promesses de la Géoula, hier soir, on va revenir employer le mot de rédemption, mais je préférais dire délivrance, parce que rédemption, ça a pris finalement tellement de dimensions de théologie pas forcément traditionnelle juive. Et par exemple, chez les sionistes du Pacaël, Archaat Kakar, ça s'appelle rédemption du sol. Et alors, on va laisser un peu ce que je vais de côté. Il s'agit de la Géoula, c'est-à-dire. Du salut dans le sens de délivrance de tout le processus de Orlamazé, de ce monde-ci, qui se termine par la fin du dernier galut, du dernier exil pour Israël, par ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance de la condition d'exil, mais la condition d'exil d'Israël est au paroxysme comme témoignage de ce qu'est la condition de créature dans le monde. Prenez, si vous voulez, l'équivalence suivante, la créature comme créature est en situation d'exil. Seul Israël le sait, puisque c'est son histoire, il vit cette histoire-là. Je veux dire, Elle est partie du principe qu'il y a une différence entre l'existence collective en Israël, la situation existentielle, disons, collective en Israël, et les Yéhidés, Ségoula, Véronta, Olam, à l'échelle individuelle, c'est vécu chez les nations, mais comme expérience individuelle. La seule société qui a vécu cela, le sens de l'histoire de ce municipal exil, en tant que collectivité, c'est la collectivité d'Israël. Je veux dire, c'est une. Au niveau du comportement dans l'histoire, nous vivons ce qu'est la condition métaphysique de la créature comme telle, être exilée. Et des philosophes peuvent entrevoir cette notion, mais elle n'est vécue existentiellement que par des individus que nous appelons dans la tradition les chassidim mota'olam. Et la définition est très simple. La création, créer, c'est mettre en exil. Je vais expliquer sous forme d'image, mais parce que je préfère, sinon si c'est nécessaire, on analysera des concepts philosophiques, mais en fait, ça prend trop de temps, mais après il faut les oublier. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu crée autre que lui? Ça veut dire qu'il met loin de lui, et il dit, reviens, tu vois. Super. Je vous donne une image qu'ont employé les maîtres de la Hassidou, pas eux seuls d'ailleurs, les maîtres du Moussa aussi, c'est que l'histoire est un apprentissage. Nous sommes créés en apprentissage d'être. Et quand nous avons terminé cet apprentissage, comme je dis souvent, mais c'est pas qu'une blague, on est un peu aidé par le français, avant d'être sage, il faut être apprentissage. Il y a le temps de l'enfance avant d'arriver à la maturité. Et bon, voilà encore une autre blague qui va venir en français. Nous sommes en train de passer une licence de l'être, mais l'être avec apostrophe. Et alors, l'objectif, c'est ou avoir le diplôme ou être licencié. Mais tout ce temps-là, qu'on appellera le stade du passage par Olamazé, c'est un temps d'exil. Qu'est-ce que ça veut dire, être exilé? Ça veut dire être loin de chez soi. Mais il y a, et la condition de créature est une condition d'exil devant Dieu. Et l'image la plus simple, c'est que nous avons été exilés de notre lieu naturel qui est le paradis. Ça, c'est plein d'humour, mais c'est chouette comme ça. Regardez chez Canada. En vue de quoi? En vue que je revienne. Alors, c'est de vous citer des apologues tant dans la race d'autres que dans le Moussa, c'est qu'il y a une véritable point d'interrogation. C'est une véritable question que Dieu pose à la créature. Il la met loin de lui pour qu'elle apprenne à marcher, du sens de l'être. Okay? Mais maintenant qu'elle va savoir marcher, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va revenir ou aller ailleurs? Il y a vraiment une angoisse. Virot maïkralo, pour voir ce qu'il deviendra de lui. Alors, il y a dans cet exil un passage par l'épreuve de l'apprentissage. On apprend à marcher, finalement. Et on part en halicha pour revenir avec la halakha, si j'ose dire. Et puis, donc, ontologiquement, existentiellement, métaphysiquement, tous les mots philosophiquement que vous voudrez, c'est la condition de la créature. Être mis loin devant le créateur, avec pour objectif de revenir avec l'acquis du mérite. Et c'est toute la problématique. On a appris à marcher, mais pour aller où? Pour revenir ou pour aller ailleurs? Ailleurs, il n'y a pas. Ça s'appelle Abaddon en hébreu. Et Derech Sharim Toré. Et je ne sais pas si le mot français de abandon, c'est le mot Abaddon en hébreu. Peut-être. Ça, je n'ai jamais cherché. C'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà rencontré ça? Abaddon, ça veut dire la perdition, être perdu. Être abandonné, c'est une influence. Non, c'est possible, je sais pas. Et alors, donc j'ai préféré le terme de Géoula, de le traduire par le salut. Bien que le mot de salut est aussi un sens très ambigu dans l'emploi théologique du terme, enfin, retenons que pour l'histoire d'Israël et l'enseignement de la prophétie, la Géoula, ça veut dire la Géoula de l'exil. Alors, entendons tout de suite cette harmonique, la Géoula de la condition d'exil, qu'est la condition de créature dans ce monde-ci. C'est-à-dire, il y a à la fois une dimension historique, une dimension religieuse, dont c'est le cas particulier de la société d'Israël dans le livre et l'expérience. C'est bien clair? Ce mot de salut peut se dire en hébreu Yeshua, c'est à notre niveau. Et ce mot de salut a pris, disons, dans la théologie disait, quand il a vu la lumière, la théologie chrétienne a tout autre sens. Et ça a pris à la limite le sens d'être sauvé du problème moral. Alors que dans le judaïsme, c'est être sauvé de la condition de créature par le problème moral. Vous voyez à quel point on ne peut jamais parler de judéo-chrétien. C'est vraiment des polarités complètement différentes, mais l'harmonie de sensibilité spirituelle, sinon religieuse, est très analogue. L'homme, connaissant sa condition de créature de ce monde-ci, est candidat à un saint. Alors Géoula, ça me paraît beaucoup plus traduit par salut que par rédemption. C'est Kapara qui s'appelle rédemption. C'est autre chose. À la limite, un tikkun, mais tikkun ne peut pas être traduit par rédemption.
C'est la création qui a été pour le monde. C'est la sortie qui a été. Et nous sommes dans un
exil. Absolument. Nous sommes dans un exil au second degré. Et le Talmud Chacham n'est que dans le premier. Le Talmud Chacham vit dans ce Gehinam qui s'appelle Olam Hazé comme s'il était Me'ahen Olam Haba, ça veut dire Me'ahen Ben Haïdé. Pourquoi? Quelle est la différence entre Me'ahen et Olam Haba? Ben Haïdé, c'est le Olam Haba avant qu'on l'ait mérité. Olam Haba, c'est le Gan Haïdé d'une fois mérité. C'est un autre sujet, mais raccourci, il convient de se faire lire ou c'est trop pas clair, hein? C'est-à-dire, c'est clair? Non, c'est pas clair? Alors j'explique un peu. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Gan Eden et ce monde-ci, d'après le récit de la Torah, sans chercher les autres dimensions qui nous sont restituées par la tradition. C'est que dans le Gan Eden, l'homme et Dieu sont en présence l'un de l'autre, et je vais dire quand même, puisque c'est Midrash qui le dit, et aucun des deux n'a peur de l'autre. Une chose énorme, et aucun des deux n'a peur de l'autre. Et c'est bien ce que je dis. Bon. Et puis, en la masé, eh bien, il n'y a plus cette présence. C'est-à-dire, il y a vraiment un exil au deuxième degré. Et c'est parallèle à Hester Panim et Hastara Beto Hastara. Ça n'explique pas la façon de mener le problème, mais c'est très parallèle. De la même manière qu'à un autre niveau, j'emploie une expression française, le temps biblique où la prophétie est présente, c'est moins exil que le temps post-biblique où la prophétie est occultée. Ça c'est plus, c'est plus. D'accord ? Et retenez surtout l'expression de Aharit Hayamim, la fin des temps, qui est le moment de la Géoula, c'est la fin des temps de l'exil, dans tous les textes des prophètes, dans tous les contextes des prophètes qui se servent de cette expression. Ve'aya, Aharit Hayamim. Bien. Alors, donc, il y a une sorte de promesse, de béatitude, si j'ose dire. Le mot est exact, malgré que, bien que le contenu soit différent, parce que ça se réfère au sens très précis. Je crois que Shoaki seul l'a retrouvé, André Shoaki, dans sa traduction de la Bible. Ashré, Haïch, Ashré, Loralar. Ashré, c'est les béatitudes, on parle des béatitudes de l'homme dans le sens français du terme. Okay. Alors là, vous l'avez au verset 9. On commence à verset 10 quand Kitishma Bekol Hashem Elokecha, lorsque tu écouteras la voix de Hashem ton Dieu, là je vais faire une petite échappée de chassidut encore. Je ne sais pas pourquoi je me transforme en chassidut, c'est peut-être pour me déculpabiliser des réticences que j'ai de la chassidut en général. Et lorsque je vous dis ça à moitié en français, à moitié en hébreu, chassidut, la moitié est en hébreu. Et ce que je veux dire a un sens, c'est-à-dire une ferveur exagérée, ça camoufle parfois des raisons de douter. J'ai pas dit ça, les racines, mais ça en soi. Mais en tout cas, pour revenir à notre verset, simplement le fait d'écouter la voix de Hachem, d'entendre la voix de Hachem, ici ça a un sens, obéir à ce qu'il demande. Mais avant d'arriver là, peut-être plus haut, plus profond. La béatitude absolue, c'est d'être dans un monde où Dieu parle et on écoute, on entend. Je ne sais pas si je suis arrivé à exprimer la nuance de sens. Il n'y a pas la solitude du silence. C'est clair ce que je veux dire. Bon. Ils font des otaves, là, il y a un mystère de l'exégèse. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que ça me prendrait une heure. Et je crois que c'est le seul cas dans le Tanakh. On attend un pluriel et un singulier. Regardez bien le verset. Kitishma Beko Lachem Elokecha. Lishmo, Mizota, Vechokotav, Aketuva, et c'est un singulier. Pour observer ses commandements et ses statuts, ses lois, écrite, pas au pluriel, écrite au singulier, souvent. Mais c'est fait la Torah avec. Vous avez compris la question?
Oui.
Bon, si vous avez une réponse, proposez-la.
La Ktouba, c'est la
Ma
La Ktouba
Non, 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 non. Ça, c'est du super grâche au 13e degré. Mais non, la Torah est après. Regardez. L'Ishno, Mitzvotav, Vechukotav, on attendrait à Ktouvim, puisqu'il y a Chukotav, non, à Ktouvot. Alors là aussi, ça commencerait à ressembler. Non, mais ça fait de raison. Mais c'est vrai, la Torah, vas-y. J'ai un projet d'explication, de proposition d'explication, c'est le col qui est Ktouva. Qui dit, je m'en vais col à ce menokecha, à Ktouva, c'est vrai. Bon, non, mais c'est pas des religieux, ça. Oui. Ça aussi, c'est du super grâce au 12e degré. Là, il y a ici un mystère de l'exégèse. Consultez les mêmes archives. Et je ne sais pas s'il y a une réponse simple. Top. Et voilà la fin du verset. Quitte à chou, quand tu reviendras, El Hachem Elokecha, vers Hachem ton Dieu, c'est-à-dire vers lui, et pas, comme on a appris hier soir, à la porte fermée qu'il y a devant lui. Ah, en fermant la porte devant lui. Je ne vais pas reprendre l'analyse du Rav Avinyan, mais c'était important, il a passé un bon moment au début. C'est qu'il y a un premier degré de tshuva par rapport auquel le peuple juif actuel est en travail depuis la fin de l'émancipation, c'est de revenir à Hachem, c'était le verset 2, et dont, là, ça c'est l'enseignement du Rav, dont l'expression la plus positive est d'arriver en Eretz Israël, même sans les mitzvot et la Torah. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire de revenir jusqu'à Dieu, mais à une condition, qu'on ne parle pas de lui. Je vous rappelle ça, c'est la première. Et c'est inouï ce que ça éclaire de manifestation de la culture juive contemporaine qui, sans cette explication, ça vient de Rav Kook, serait aberrante. C'est-à-dire tout ce foisonnement de retour au judaïsme sans judaïsme, de retour à la Torah sans Torah. Vous comprenez de quoi il s'agit? C'est-à-dire la littérature juive contemporaine, israélienne compris d'ailleurs en grande partie, si un observateur objectif, neutre, égoïste, faisait l'analyse du phénomène, il dirait ce peuple est fou, ce peuple est incohérent, ce peuple est. Si déjà tu abandonnes, abandonne. Ah non, je n'abandonne pas, mais j'abandonne. Si déjà tu reviens, reviens. Ah non, je ne reviens pas, mais je reviens. Vous avez compris, c'est congolais, je comprends bien. J'avais expliqué ça d'une toute autre manière une fois, on a eu l'occasion d'étudier à propos de l'histoire de Joseph. Au moment où il arrive, portant le salut à l'Égypte, devenu stérile. Vous vous rappelez de ça? Devenu fécondable mais infécondé. La femme de Poutifar était fécondable mais infécondée parce que Poutifar était eunuque. Était stérile, enfin, stérile, un mot plus fort. Donc, là, il arrive un stade des sociétés où on attend Joseph. On l'attend comme le sauveur. Et d'ailleurs, dans toutes les liturgies des nations qui ont diagnostiqué la figure de Joseph, Joseph est considéré comme le sauveur. Bon, Saint Joseph chez les chrétiens, Youssouf est chassadique chez les musulmans, etc. Et alors, dans le texte biblique, Joseph est porteur du rire de la réussite, de la gloire. Et c'est ce qu'attend la femme de Poutifar. Imaginez cette civilisation arriver au stade où elle ne rit plus. Hein, dans tous les sens du rire, qui vient du trac. Et alors, je vais paraphraser ça en termes de culture contemporaine, mais d'abord je vais lui verser. Comment elle se plaint à son mari? Elle est Veta, je dis les mots. Nahar a Ivri ou Evel a Ivri. Evel a Ivri, et Tsachel Banu. Tu l'as fait venir pour mettre le rire en nous et il n'a pas voulu. Il s'est sauvé au dernier moment. Vous avez compris l'allusion? Alors elle se plaint avec véhémence, en temps de concentration. Je vais essayer de vous écrire ça comme ça, un sujet explosif peut-être quelque chose là, mais un peu de ça. Et les nations qui attendent d'Israël la parole de Dieu, d'être, comme j'ai dit une fois dans ce séminaire, théophore, porteur de Dieu. Et puis voilà Joseph. Coquet, comme dit le Midrash à cet âge, vous vous rappelez de ça, qui dit, ah oui, c'est moi, oui, mais tu sais, je suis athée. Voilà, explosion de la femme de Poutifar. Vous avez compris à peu près le drame qui se passe là. Alors, heureusement qu'il y a une certaine pudeur de l'histoire environnante de ne pas être trop antisémite à cause de la Shoah. Mais il y a eu des époques où il y a eu une espèce de fureur de réaction devant cette ambiguïté, ambivalence. Judaïsme sans judaïsme, Israël sans Israël, Torah sans Torah, religion sans religion, n'est qu'à lire la littérature des philosophes juifs contemporains, et puis ça commence avec Hermann Cohen bien avant. Et encore une fois, un lecteur objectif du phénomène culturel juif, ou deviendrait fou, ou sereinement pourrait dire son fou. Bon, et bien c'est prévu par la Torah, ce premier stage. Il s'agit de quelque chose de tellement important qu'il y a quelques étapes, quelques paliers. Vous avez vu ce qu'on a fait. On a récupéré dans la Torah une somme faramineuse de phénomènes aberrants. C'est très féminin. Bon. Et alors, voilà donc quelle est la fin de verset de laquelle nous avons parti. Ça arrivera quand cela, Kikashuv et Hashem Elokecha Becholeva Becholeva. Quand tu reviendras, pas seulement jusque devant, mais pas plus, mais devant vraiment. Mais c'est-à-dire que, j'anticipe un peu ce qu'on va apprendre ce soir, que non seulement tu feras ce qu'il faut, mais tu avoueras de quoi il s'agit. Tu diras l'aveu de ce dont il s'agit. Parce que le thème que nous allons étudier, c'est que la tchouva n'est authentique que s'il y a le vidouille, que s'il y a l'aveu, l'annonce de ce que l'on fait. Il n'y a pas de tchouva sans vidouille. La tchouva sans vidouille, c'est une velléité de tchouva. Vidouille, ça veut dire l'aveu. C'est clair jusque-là? Et nous allons voir que toute la controverse entre ces poskim porte sur ce point. Pour terminer cette petite échappée dans le présent, je veux dire, les juifs font finalement ce qu'ils font dans le programme prévu par la Torah, mais ne disent pas de quoi il s'agit vraiment. Et j'ai une fois formulé cela un peu de cette manière. Si vous faites une enquête dans une ville d'Israël, vous demandez aux Israéliens qui sont là dans la rue, nous vous arrivez, avant arrivé, il n'y a pas longtemps, un peu plus, Zatikin, Halachim. Pourquoi vous êtes là? Vous entendez des réponses qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue culturel et de l'éclairage sociologique de l'histoire de chaque juif arrivé dans ce pays. Mais personne ne vous dit la vérité. Pourquoi il est vraiment là? Un petit échantillonnage très rapide. Un va vous dire, je suis venu là pour pouvoir être socialiste. Ça commence, l'histoire congolaise. Okay. Il est venu là pour pouvoir être socialiste. Alors, pourquoi là? J'ai compris de plus. Est-ce qu'on ne peut pas être socialiste ailleurs? Peut-être qu'on ne peut pas. C'est un autre sujet, mais ce n'est pas la réponse à la question. Okay. Un autre va vous dire, je suis venu ici pour pouvoir être religieux. Et alors, on ne peut pas être religieux ailleurs? Peut-être c'est vrai, moi je suis juste religieux. Mais il n'a pas répondu à la question. Il est compris de plus. Personne ne dit. Parce que, en tant que juif, j'étais en exil et que le moment est arrivé de rentrer chez moi comme hébreu. Comme simplement. Certains commencent un peu à balbutier ça. Et surtout, dire j'ai accompli la promesse qui m'a été faite, moi, peuple juif, je la vis plutôt que j'accomplis. Parce que c'est quand même, il y a un autre gorème, il y a un autre facteur. Nous le faisons, mais c'est Dieu qui le fait. Vous rappelez qu'on étudie ça aussi. Il faut être vraiment mystique pour croire que c'est nous qui faisons ça, tout seul. Et alors, il y a des mystiques qui préfèrent et croire que Dieu fait ça tout seul. Et eux, ils attendent loin, là-bas, ils observent de loin. Les mitzvot observés de loin. Mais la vérité, on ne la dit pas. On fait ce qu'il faut, mais il n'y a pas l'aveu de la chose. La chose se fait, mais il n'y a pas de bidouille. Voilà ce que je voulais dire. Alors, complémentairement, vous allez faire la même enquête dans une ville juive de la Gola, à Sarcelles, si vous voulez, et vous allez demander aux gens juifs, pourquoi vous êtes à Sarcelles et pas en Eretz Israël? Ben, chacun va vous raconter l'histoire de sa vie, et c'est très intéressant, ça fait partie du phénomène culturel juif, mais personne ne vous dit la vraie vie. Comme pour tout à l'heure, ceux qui sont là, la vraie raison, c'est qu'ils sont là. Et après, ils se cherchent une raison. Et puis, là-bas, eh ben, la vraie raison, c'est qu'ils sont là-bas. Et pas ici, après, ils se cherchent une raison. Ouais, on est en plein dans ce texte-là. Ça veut dire que là, tu vois, on a vidouille, qu'il faut dire, avouer ce qui se passe pour que ça soit authentifié. Voilà, c'est clair jusque-là? Bon. Et c'est tout, je crois qu'on pourrait faire toute une mise au point qui n'a probablement encore jamais été faite d'une étude importante de la société juive, de la sociologie de la société juive, qui est vraiment un champ d'étude extraordinairement riche. Les juifs sont les êtres les plus paradoxaux qu'il y ait au monde, surtout en société. je crois qu'aucun ethnologue n'a encore fait ça. C'est Henri qui fait la conscience humaine de sa propre conscience, l'humanité de sa propre conscience. Parce que c'est la même chose que le fait humain, mais au paroxysme, mais au second degré, en témoignage, et plus ou moins lucide, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je disais justement? Pourquoi j'ai parlé de ça? La phrase, enfin, je voulais relier les deux points, mais vous pouvez le relier par vous-même. Cette espèce de virtuosité, d'ingéniosité, a présenté une position contradictoire, marginale, plein de mystères. Je crois qu'il n'y a aucune société au monde qui présente ce phénomène. Et donc, c'est dans ce thème que la Torah prévoit tout ce programme. Et alors, on commence notre texte au verset 1. J'ai rien laissé dans l'ombre de tout ce que j'ai touché un petit peu trop. Ça va, on peut y aller. C'est elle, c'est avec lui. Bon. Elle, c'est à visage découvert. Tu vois, elle, en hébreu. Okay. Elle, en français, c'est un autre programme. C'est-à-dire, à visage découvert. Je vais vous donner un autre exemple. Mais il faut pas me tenter avec ces questions qui nous ramènent au préface. C'est, dans l'exil, le peuple juif a quand même joué le rôle qu'il devait jouer. Mais pas à visage découvert, pas esqualifié, pas au titre de son identité réelle, et donc de façon défigurée, de façon parfois ténébreuse, il a joué son rôle de peuple de prêtre et nation sainte, mais laïcisé. Ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Mais dans le chaos, dans la défigure, sous des masques, c'est-à-dire ce que je dis là. Et de la même manière ici, le retour se fait. Mais avec quelqu'un m'a montré hier soir, dans Haaretz, le rédacteur en chef de Haaretz, qui a fait un article pour dire qu'il faut complètement s'assimiler, se mélanger aux autres, il n'y aura plus de problème de sécurité en Israël, parce qu'il n'y aura plus d'Israël, monsieur. Et puis, Et alors, une des lettres de lecteurs, lui disons, mais rassure-toi, ça se fait. Par exemple, l'amélioration de la race juive par les Scandinaves qui viennent au kibbutz. Mais ils s'en foutent. Ils savent pas, à l'époque, que quand un Scandinave vient au kibbutz, c'est pour découvrir Israël. Alors, c'est un Israël qui vous dit bienvenue aux Scandinaviot, parce qu'on a besoin d'améliorer la race athée du Québec. Donc, vous avez compris. Et alors, peut-être que ce que je dis là est rassurant, c'est prévu par le tour. Ah oui, je vous donne un exemple. Bien sûr. À chaque moment où il faut renouveler l'alliance, il y a un vide. Qui nous sommes. Quand Josué est entré dans le pays, il a rassemblé Hachem, le peuple d'Israël, et il leur a demandé d'aller avouer qui ils étaient. Tant qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils étaient, il leur a dit que l'alliance ne marche pas. Vous avez compris ce que je dis ? Il faut un certain courage de. Comment dire ça ? Et parce que peut-être c'est plus un courage, ou pas un courage du tout, un courage d'être soi-même, pourquoi on peut dire ça en français, un courage d'identification de soi. Alors on se cherche des contorsions pour, c'est un peu l'expression, je suis juif, mais, pourquoi mais, est-ce que c'est clair? Je pense qu'il y aurait là l'occasion d'une étude très intéressante à faire pour éclairer la condition existentielle d'homme dans l'humanité en général. Cette panique d'être homme qu'on retrouve chez le peuple juif, de la panique de juif au second degré. Rappelez-vous de cette histoire de Joseph. Et alors, c'est tellement important d'être le Joseph qui porte le rire, c'est-à-dire la joie, la réussite, la virula chez les nations arrivées en fin de cours de civilisation, que ça vient lui donner une vertu. Alors, quand il se parle à lui-même, qui est sûr, qui ne prend pas au sérieux, comment les goyim entendent ça? Je suis athée. Alors que chez lui, je lève une hypothèse de travail. Alors, revenons au texte. Et voilà. On vient d'apprendre à la fin du verset suivant, « Kikashum et la chaîne Lokecha, lorsque le retour sera authentifié. » Qui a mitzvah azot. Qu'à cette mitzvah, et c'est là que le mystère d'exégèse a commencé, de quelle mitzvah on parle, qu'à mitzvah, car cette mitzvah-là, à Shéanochim et Tzavecha Ayom, que je te prescris aujourd'hui, bonifletinecha, elle n'est pas trop miraculeuse pour toi, c'est-à-dire trop énorme pour toi, trop grande pour toi, merveilleuse pour toi. Velorechokahi, elle n'est pas loin. L'Ovachamaimi, elle n'est pas dans le ciel. Les mots que tu dis, mi alelan machamaima, qui montrait pour nous au ciel, Assomption, peut-être. Veikahéha, la nous, elle apprendrait pour nous. Veyashmeinu ota venahasena, et elle nous la fasse entendre qu'on l'accomplisse. Velomeverlayanu, elle n'est pas au-delà de la mer. Les mots pour dire que tu dises, mi avolanu elayam, qui traversera pour nous l'au-delà de la mer, lui caché à la nuit, il apprendrait pour nous, yashmeinu, otavena asena, et nous la ferait entendre que nous l'accomplissions. Il caro velecha adavar meod, car cette chose est proche de toi beaucoup, beficha ubilvavecha la asoto, dans ta bouche et dans ton cœur, de la pour l'accomplir. Rappelez-moi, quand on arrivera là, il y a là vraiment le remès qu'il s'agit de la tchouva et du vidouille. Le vidouille, c'est Bejicha ou Bilbavecha. En dibourg, et en marchava, en parole et en pensée. Voilà. Et alors ça enchaîne sur le contrat de l'alliance, c'est l'un des versets les plus forts de la Torah. Ré, voix, il n'y a plus Shema, mais à Ré, là, on est arrivé au stade où on a expérience directe, on voit, et non plus expérience médiate de tradition qu'on écoute ceux qui ont vu. Vous vous rappelez la différence entre Shema Israël et Ré Israël, c'est un principe de la législation talmudique, de Halakha. Il y a deux sortes de témoignages, le témoignage de celui qui a vu et qui dit ce qu'il a vu, le témoignage de celui qui a entendu et qui dit ce qu'il a entendu. Eh bien, pour la législation talmudique, il est évident que le témoignage de qui a vu passe avant le témoignage de qui a entendu. C'est la Réia, Mishmiya. Ça va jusque-là ? Bon. Là, on est arrivé au stade où il n'y a plus simplement Shema, écoute, je t'explique de quoi il s'agit, toi tu ne vois pas encore. Là, on est arrivé au stade où Ré, vois, tu vois. Nathati de Fanechayom, j'ai placé, j'ai donné devant toi aujourd'hui, et ta mare, et ta va, etc. Et ta chayé, et ta to, la vie et le bien, et ta mare, et ta. Et la mort et le mal. La suite, vous pouvez lire, vous voyez par la suite, on va revenir à notre sujet. Et nous avons entre autres une définition très claire. Qu'est-ce que c'est que le bien? C'est la vie. Qu'est-ce que c'est que le mal? C'est la mort. Alors maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la mort. Alors je pourrais dire, mais c'est aussi le deuxième volet d'étude. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est le bien. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est le mal. Mais nous avons là une définition très claire de ce que la Torah entend par le bien et le mal. Ce qui va du côté de la vie, c'est ça le bien. Ce qui va du côté de la mort, c'est ça le mal. Et le problème de la sagesse, c'est de savoir diagnostiquer qu'est-ce qui engendre la vie et qu'est-ce qui mène à la mort. Il est évident, on trouve là la vision que le Rav Elmir a fait hier soir à la définition de la prophétie. Il nous fait voir comment il faut voir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un diagnostic ponctuel de contingente de civilisation immédiate, où on peut définir le bien et le mal, le vivant et le contraire, par l'expérience de contingente du ponctuel. Mais il s'agit de ce qui correspond à l'exigence ontologique de la vie et au refus ontologique de la mort. Voilà donc le texte. Alors, hypothèse de lecture, d'après tout ce qu'on a lu précédemment, il s'agit de la tshuva. De quelle mitzvah on parle? On parle de la tshuva. Est-ce que c'est clair? Bon. Comment? Montre-le-moi en hébreu dans le chat. Bon, c'est ça. Tant que ça ne colle pas la lettre, l'esprit n'est pas là. Quoi donc? Tu veux dire que toute la Torah c'est une seule mitzvah et c'est celle-là? C'est ça que tu veux dire? Si, c'est ça que tu veux dire. J'entends. Regardez, comment était le verset qui nous faisait difficulté tout à l'heure? C'est verset 10, hein? Qui tishmar bekol Hashem Elokecha, tishmar mizota vechukota vaktuva de Sefera Toraz. Alors, c'est vraiment un pérouge très élaboré qui consiste à dire, il y a ici ktuva au singulier, parce que toute la Torah entière, c'est une seule mitzvah, d'après le verset suivant, qui a mitzvah azo, Hacher Nofri Messer et Chayom. Bon, mais ça ne marche pas du tout du point de vue du chacun, c'est tout du tout. Bon. Alors donc, hypothèse de lecture, première hypothèse de lecture, la tshuva est appelée mitzvah. Ça va jusque-là? Bon. Alors, je vais expliquer. Nous allons voir que c'est en controverse. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette controverse de manière immédiate du point de vue de la sagesse, du comportement de repentir et de retour. Et je vais commencer à introduire par un principe d'exégèse que nous devons en enseignement du Rav Kook et qui est important à rappeler. C'est que nous avons un commandement, un ordre, dans le style de la Torah, devrait être à l'impératif. Okay? Ça veut dire le commandement est à l'impératif. La chova, obligation, est à l'impératif. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout à l'impératif, que c'est formulé au futur. Lorsque la Torah veut dire « tu feras, fais », elle dit « tu feras ». Et lorsque elle veut dire « ne fais pas », elle dit « tu ne feras pas ». Par exemple, « l'otignol ». Et on s'attendrait à « aïtignol ». « Ne vole pas ». Qui a écrit « tu ne voleras pas ». On s'est tellement habitué au style biblique qu'on établit, c'est comme ça que la Bible s'exprime, elle emploie le futur pour dire l'impératif. Et d'où on le sait précisément du projet à nous poser. Est-ce que c'est clair? Parce que la Bible s'est employée l'impératif pour aller le futur. Alors, le Rav a expliqué que l'obligation, le commandement elle-même, la dimension de l'impératif est en soi une promesse, donc au futur. Prenez pas d'explication. Si la loi s'adresse à moi pour me donner une obligation, c'est qu'elle sait que je suis en cas de l'accomplir, donc elle me promet que je l'accomplirai. Le seul fait que je m'adresse à une conscience pour lui ordonner quoi que ce soit au nom d'une valeur implique la promesse qu'elle finira par l'accomplir, parce que sinon c'est pas elle que je m'adresse. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire, la loi ne s'adresse qu'à la conscience qui est sensible à elle. Donc ça veut dire que c'est une promesse qu'en fin de compte ça s'accomplira. Prenons les 10 commandements, tout est écrit au futur, et même là on croit qu'il n'y a qu'un infinitif, en tout cas il n'y a pas d'impératif. Par exemple, Kavel et Tadicha et Dincha, Zaho, c'est quand même un futur. C'est un problème de grammaire, mais il a sa solution. Et ça voudrait dire à la fois que, niveau de la promesse, si tu es Israël, je te promets, tu feras ça, tu ne feras pas ça. Voilà ta carte de comportement, ta charte d'identité simultanée. Okay? Et alors donc, ça c'est l'aspect promesse, et d'autre part, cette promesse implique une tension entre l'état où tu te trouves et l'état d'accomplissement de la promesse. Alors, la loi s'adresse sous la forme impérative pour m'enjoindre de combler cette... Et alors on entend deux choses à la fois, c'est-à-dire, tu dois... Mais dans tous les cas, sache-le, que tu le veuilles ou pas, tu y arrives. Parce que c'est ton identité qui est comme ça. Le Rav a résolu le problème de cette tension de niveau de manière extrêmement faible et extrêmement importante. La promesse, comme promesse, s'adresse à la collectivité d'Israël. L'impératif, comme impératif, s'adresse à l'individu au sein de la collectivité. C'est vrai ? C'est-à-dire, simultanément, en tant qu'individu, j'entends l'impératif. L'impératif quoi? À avoir à coïncider à l'être de la collectivité qui est au lieu de la promesse. Et simultanément, j'entends cet impératif et cette promesse en tant que je suis inséré dans cette collectivité. En tant que je suis X, membre de la communauté d'Israël, Plony Alboni, c'est l'impératif qui nous concerne. Il nous concerne au niveau d'adéquation réussie ou pas encore à l'identité collective. C'est-à-dire l'individu va entendre plus d'obligations ou plus de promesses ou plus d'obligations suivant le niveau de mérite où il se trouve. Okay? Lorsqu'on arrive au mérite du tzadik réalisé, on ne perçoit plus l'aspect obligation. Ça devient une idée. Ça devient une manière d'être. On a coïncidé avec sa charte d'identité. En tant que je participe à la collectivité, j'entends l'aspect promesse. C'est bien clair? Toutes les autres sont dans ce cas. Et donc, à l'intérieur de ce problème général, nous allons nous poser par rapport à la Tshuva, et ça va éclairer, je pense, assez facilement, pourquoi les décisionnaires sont en controverse, je vais pas dire en désaccord, mais en controverse, de savoir s'il faut considérer la conduite de Tshuva, de repentir, s'il y a une faute, comme une obligation parmi les obligations de Torah, ou s'il faut considérer que c'est un processus naturel qui nous est promis. Et on particularisera cette controverse entre Maïmonide et Nachmanide assez immédiatement. Mais en particulier pour le problème de la tshuva, je pense qu'il y a un cas particulier parmi toutes les mitzvot. Je vais décrire le problème. Nous avons 613 mitzvot. Or, je n'ai à faire tshuva que si une des 613 mitzvot a été transgressée. Par conséquent, cette mitzvah-là a une 614e. Est-ce que la mitzvah, qui consiste à réparer un défaut des 613, fait partie des 613? Vous avez compris la difficulté du problème, okay? Nous avons pour d'autres mitzvot ce cas-là. Je ne vais pas les citer, ça me semble évident. Trois ou quatre comme ça. Mais surtout la tshuva. Ça voudrait dire que considérer la tshuva comme une mitzvah, c'est très pessimiste. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tzadikim. Okay? Pourquoi? Parce que la personne qui pratique toute la Torah, puisque une des mitzvot, c'est la tshuva. Donc, si une des mitzvot, c'est la tshuva, c'est que la Torah prévoit qu'elle ne sera jamais accomplie, puisque à moins de la tshuva. Et la difficulté est double. Hein? C'est clair que ça veut dire que seul le Baal Tshuva serait tzadik, puisque lui accomplit les 613 mitzvot. Mais pour être tzadik, il faudrait avoir été chanté pour pouvoir être Baal Tshuva, c'est très difficile. J'ai compris pourquoi la question se pose. C'est clair? Non. Alors je crois que la clé qui détend la difficulté, c'est une difficulté presque juridique par rapport à la Torah en tant que loi, c'est cette différence de niveau entre la collectivité d'Israël qui reçoit ce verset comme une promesse, le futur est promesse, et l'individu qui doit le recevoir comme un commandement. Okay? Alors voilà, même pour ceux qui vont dire que la Shura n'est pas une mitzvah, le vidou est une mitzvah. Ça veut dire, je vais vous lire d'ailleurs la Mishnah de Maïmonide tout de suite, et nous allons le voir. Dans tous les cas, la Shura n'est pas authentique s'il n'y a pas de vidou. Bon, il y a une mitzvah de la Torah que lorsqu'on fait Shura, il faut faire le vidou. C'est clair? Vidou, ça veut dire donc la veuve. C'est clair pour tout le monde. Et je crois que j'ai signalé ces dernières années que les psychologues, j'allais dire contemporains, mais je crois que les psychologues, à quelque contemporanéité que ce soit, s'ils étaient psychologues, ils auraient été psychologues, même si le mot ne désignait pas leur être de thérapeute, ce qu'on appelait au Moyen-Âge Rofenefesh, ça c'est l'expression employée au Moyen-Âge en hébreu, c'était le thérapeute. Bon. Et que, tant que quelqu'un qui souffre, un trauma quelconque, à quelque niveau que ce soit, n'est pas capable d'en parler, il n'y a aucun signe qu'il est en train de guérir. C'est-à-dire que c'est l'aveu qui guérit. Et c'est clair ce que je dis là. La capacité d'en parler, c'est le signe que la guérison a commencé. Le courage de l'aveu, c'est le signe du repentir. Tant qu'il n'y a pas encore le courage de l'aveu, on n'est encore que dans le remords. Et le remords est le signe de la maladie, alors que le repentir est le signe de la guérison. Je ne sais pas si c'est clair dans le sens des mots, même en français. Une minute. Ce que je veux dire là, c'est ceci. C'est nous allons entrevoir cela, que le comportement de repentir est le comportement moral le plus difficile. Mais ce qu'il y a de difficile dans ce comportement moral, c'est l'aveu. Et là, je me base sur un enseignement que je résume autrement, qui est du Maharal, dans son commentaire de Pirkei Avot, sur l'expression Yede Avera, une expression hébraïque de la Mishnah, sur laquelle je vais un peu rester quelques instants. Yede Avera, littéralement, ça veut dire les mains de la transgression, ça veut dire ce qui mène à la transgression.